C'est un livre qui parle de l'histoire des premiers chrétiens dans l'Empire romain. Et je peux vous dire que, après que j'ai lu ce livre, j'étais tellement heureux de vivre à notre époque, parce qu'ils ont, on peut dire, ils ont souffert de leur appartenance au Christ. Parce que le problème de ces chrétiens-là, juste après la mort de Jésus, de l'Antiquité jusqu'à au moins au 4e siècle, ils devaient sacrifier aux idoles et sacrifier à l'empereur. Et donc, le seul fait de dire qu'ils étaient chrétiens les condamnait à la torture et à la mort. Et il y avait une loi qui était passée, c'était « Être chrétien est illicite ». Et je me suis dit, quand même, quel courage et quelle implication ils ont eue, et comment ils pouvaient réagir devant tout ça. Et il y a un mot qui revenait souvent dans leurs explications, « Je suis chrétien, donc je ne peux pas sacrifier aux idoles ». Et je me suis intéressé un petit peu à ce petit mot « donc », qu'on retrouve finalement assez souvent dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai même que dans le Nouveau Testament, notre vie chrétienne est fondée sur la reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Dans l'Ancien Testament, la phrase qui revient le plus souvent, c'est Dieu qui rappelle à Israël ce que l'Éternel a fait pour lui en le délivrant du pays d'Égypte. Et vous connaissez cette phrase par cœur, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir de l'Égypte, du pays de l'esclavage. » Et il répétait toujours ce message parce que ça motivait toute la conduite du peuple, particulièrement en ce qui concerne l'interdiction d'adorer les idoles. Et là, on revoit exactement la même chose que dans le début du christianisme. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, l'amour de Dieu pour nous, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, eh bien, c'est la base des exhortations pour une vie sainte. Et les épîtres de Paul, souvent, lorsqu'on les étudie, elles sont structurées en deux parties. La première, qui est une partie qu'on appelle plutôt dogmatique, c'est-à-dire une partie presque théologique qui explique ce que Dieu a fait pour nous, et puis une partie pratique. Dans la première, donc, l'apôtre rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous, et dans la deuxième, ce qu'il attend, ce que Dieu attend de nous en réponse à son amour. Et les deux parties, vous vérifierez quand vous lirez les épîtres de Paul, les deux parties sont reliées par un petit mot très important, « donc ». Et je ne sais pas si vous avez des souvenirs encore de vos études à l'école, quand vous appreniez les conjonctions de coordination. Si vous voulez des choses plus précises, demandez à Marie-Léna, mais il me semble qu'il y avait un moyen mnémotechnique qui fallait se rappeler que c'était « mais, où, et donc, ornicar ». Et c'était les conjonctions de coordination qu'il fallait souvenir. Donc le mot « donc », finalement, on pourrait résumer le chrétien comme un « donc ». Et donc, voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Romains. Il dit, en Romains 12, chapitre 1, c'est le passage où vous avez la transition entre la partie théologique, pas toujours facile à comprendre, et puis la partie pratique qui est plus facile à comprendre, mais peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Je vous invite, donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Et c'est exactement le même schéma dans l'épître aux Éphésiens. Dans les trois premiers chapitres, Paul va développer tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Regardez, écoutez. Il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui sont toutes en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, Dieu a voulu afin que nous célébrions sa gloire. qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Et il va continuer. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu le Dieu de l'Esprit-Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu, nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Vous étiez loin de Dieu, mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ et nous lui devons notre paix. Grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Dans cette partie de l'Épître aux Éphésiens, tous les verbes sont à l'indicatif. Je suis désolé, on fait un peu de grammaire ce matin, mais tous les verbes sont à l'indicatif. Par contre, il y a un grand tournant dans cette Épître. Écoutez, c'est pourquoi, moi, Paul, qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc, instamment, de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Et là, vont suivre une série de verbes à l'impératif. On change de temps, et là, l'impératif, vous savez, c'est plus qu'un conseil, c'est presque un ordre, et qui nous indique, qui nous disent comment mener cette vie digne de l'appel que nous avons reçu. Il y a cette charnière entre les deux parties, comme dans l'Épître aux Romains, et c'est le petit mot « donc ». Et il y a un auteur qui n'a pas hésité à dire que le chrétien est un « donc ». Donc, vous voyez, il y a quelque chose de... On ne peut pas écouter la partie dogmatique, la partie qui nous enseigne ce que Dieu a fait pour nous, et puis ne pas avoir cette conséquence du donc. Les Israélites, vous savez, devaient, en grande partie, pour être simple, parce que ce n'était pas très simple la loi, devaient donner deux sortes de dons. Il y avait le premier qui était le sacrifice d'expiation et puis le deuxième qui était le sacrifice de consécration, c'est-à-dire de reconnaissance. Première partie de l'Épître aux Romains s'applique à nous expliquer quelle a été l'expiation, quel a été le cadeau, quel a été le sacrifice que Jésus, notre Sauveur, a fait à notre place. Et la deuxième, eh bien, c'est l'offrande de consécration qui nous est réclamée. Et c'est ce petit mot entre ces deux parties, donc, qui s'insère, fait pas beaucoup de bruit, hein, c'est un tout petit mot, hein, mais qu'est-ce qu'il a comme conséquence ? C'est vrai qu'un don commande l'autre. Si notre Seigneur Jésus, l'homme-Dieu, s'est immolé pour nous, eh bien, nous devons nous donner à lui. Et tout le christianisme se résume dans un seul mot. Et je crois que peut-être ce matin, si nous devons nous souvenir de quelque chose, la devise que nous devons avoir, c'est « donc ». Et c'est un mot qui frappe et qui peut vous aider. Et à tous ceux qui se préoccupent de découvrir un modèle de consécration, eh bien, souvenez-vous du mot « donc ». 4 lettres de cette petite expression d'injonction, parfois bien comprise, eh bien, peut devenir la clé miraculeuse qui va nous ouvrir l'accès au plus grand des trésors de notre Dieu. Parce que c'est parce que Jésus est mort pour nous, donc nous devons faire ce qu'il aime et pour l'aimer. Alors, qu'est-ce qu'implique ce mot « donc » ? Eh bien, c'est un terme de logique hein, en français. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais.
Donc,
so. So, oui. Donc, c'est encore plus court. Donc, on peut se souvenir de ça. Et il est un peu équivalent au mot, la phrase, mais qui est un peu plus longue, à « c'est pourquoi hein, ». C'est pourquoi. Et on le retrouve, ce terme-là, dans les épîtres de Pierre. Il utilise même des fois le mot « par conséquent hein, » à la place du mot « donc ». Et donc, la motivation se trouve dans les faits exposés, ce que Jésus a fait pour nous, et on en vient aux conséquences à en tirer. Et donc, fait appel à notre intelligence et à notre volonté. C'est parce que nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous que nous avons ce mot « donc ». Souvent, j'ai fait ça avec mes enfants, et j'essaye de faire ça avec mes petits-enfants, et c'est un peu plus difficile. On dit souvent « range tes jouets et viens manger ». Et souvent, ça n'a pas vraiment de conséquences. Il faut le répéter souvent. Et puis, un moment où on explique la raison de notre demande, « range tes jouets parce que c'est l'heure d'aller te coucher ». Et puis, après, on inverse les deux propositions. C'est l'heure d'aller au lit, donc tu dois ranger tes jouets. Et c'est exactement la même chose pour nous. Et on espère qu'un jour, simplement en disant la première partie de la phrase, on n'ait pas besoin de dire la seconde partie. Range tes jouets, ça suffira. Eh bien, c'est un petit peu comme nous, les chrétiens. Nous sommes chrétiens. Est-ce qu'il est besoin de rappeler « donc » Et l'apôtre Paul nous le rappelle parce que parfois nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants. Et nous avons besoin qu'on nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous et quelles implications ça nous donne. Tout simplement, les apôtres, quand ils écrivaient leurs épîtres, eh bien, nous expliquaient que c'est par reconnaissance pour tout l'amour que Dieu nous a donné, que nous n'allons plus vivre dans le péché et que nous allons être aimants comme le Christ a été aimant et que nous allons chercher toujours à lui plaire. Alors, c'est vrai que dans le monde, tout le monde cherche son salut et il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui font des œuvres, qui font des rituels, qui ont besoin de sacrements. Ça, c'est vrai. Mais il y a une chose extrêmement importante, c'est que le chrétien, nous avons l'assurance de notre salut. Et j'ai un personnage que j'aime beaucoup, dont j'ai lu l'histoire dans de nombreux livres, qui s'appelle Monsieur Vincent de Paul, et que vous connaissez sûrement, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Il a été les précepteurs des enfants des rois, et ensuite il a même été aumônier des galères, c'est-à-dire qu'il remplaçait, il allait sur les galères et il remplaçait les gens qui ramaient. Et la plupart des gens qui ramaient, c'était des protestants qui étaient condamnés. Et donc, une fois, la reine-mère va lui demander « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ?» Et là, Vincent de Paul va dire une chose auquel je n'adhère pas très bien. Il a dit « Oh, j'ai si peu fait dans ma vie. » Je crois qu'il n'avait pas... Enfin, peut-être il s'était égaré quand il avait dit ça, mais il n'avait pas bien compris que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes par les œuvres. C'est impossible. Mais parce que nous sommes sauvés, alors nous allons faire des œuvres. C'est ça. C'est pas dans l'autre sens. Nous ne faisons pas des œuvres pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés. Donc, nous obéissons à notre Seigneur. Et j'ai lu une histoire récemment qui expliquait que dans certains pays, il y a de nombreuses années, jouer aux jeux d'argent était interdit. Et la police arrive dans un tripot hein, et elle voit deux jeunes qui étaient en train de jouer aux cartes avec de l'argent. Ils sont bien évidemment mis en prison. Et au bout de quelques jours, un des garçons va être libéré parce qu'on va payer une rançon pour lui. Ses parents étaient très riches. Et bon, il paye la rançon et le gars est libéré. Et le deuxième reste en prison parce qu'il est le fils d'une veuve et qui n'a pas d'argent. Et un jour, de sa cellule, il voit sa mère dans le champ à côté qui est en train d'arracher des chardons et qui a les mains en sang. Parce que il dit, mais il l'appelle, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je travaille pour payer ta rançon. Je travaille pour payer ta rançon. Au bout de quelques semaines, la mère peut réussir à payer la rançon du fils et le fils sort et il retrouve son copain. Et le copain dit, viens, on va aller jouer aux cartes. Et ce jeune homme, ce deuxième jeune homme, fils d'une pauvre famille, eh bien, va dire, jamais de la vie, quand j'ai vu le sang sur la main de ma mère, j'ai juré de ne plus jamais lui faire de la peine. Et par reconnaissance pour elle, pour ce qu'elle a fait pour moi, je veux être un bon fils pour elle. C'est exactement la même pensée que nous devons avoir pour notre Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Paul aux Corinthiens va dire, vous avez été rachetés à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans votre comportement. Et donc, lorsque nous prions, lorsque nous appelons notre Père, eh bien, il voit tout cela. Et on pourrait dire, par conséquent, pendant tout le temps qu'il vous reste à passer dans ce monde, manifester dans votre manière de vivre comment vous le révérez. Et vous savez, on sort en ville, partout, on voit des choses. Hier, nous étions en train de nous promener avec Milly, Pierre-André et Pascal, et on rentre du côté d'Oralil, et une bagarre entre jeunes. Et on était un peu sonnés, on était un peu. Et on voit un type qui avait plein de sang sur la tête. Et C'était horrible et on voit un monde qui est plein de violence, plein de haine, plein de méchanceté. Et pour nous chrétiens, eh bien, nous devons nous faire cette différence par notre manière de vivre. On a été libérés des péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il faut que nous soyons libérés de notre manière futile de vivre, parce que par notre obéissance à la vérité, eh bien, nous montrons que nous aimons notre Seigneur, notre Seigneur. Il faut donc rejeter toute forme de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie. Et c'est l'apôtre Pierre, dans sa première épître, qui dira « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi, exactement la même chose que donc, c'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme, pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables. Jésus-Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, mais à présent, il vit, il est vivant, et il vit pour Dieu. Nous devons nous considérer comme des gens redevables de l'amour de notre Seigneur. Et il y a de nombreux passages qui expliquent ça. Dans l'Épître aux Hébreux, le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Et pour terminer, je vais vous lire cette parabole qui résume exactement ça. C'est la parabole, vous savez, quand Jésus vient manger chez un pharisien, et puis il y a une femme qui vient lui déposer du parfum sur les pieds, pleurer et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds, elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur lui. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser sa dette, il fit cadeau à tous ceux de ce qui lui il fit cadeau à tous deux de ce qu'il lui devait. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit. Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus, puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis rentrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner, ou qu'il croit, ne manifeste que peu d'amour. Et non pas... Elle a beaucoup aimé, c'est pourquoi ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais le contraire, elle a été pardonnée, donc c'est pourquoi elle a aimé et a voulu témoigner sa reconnaissance et son amour. Vous voyez dans quel sens ça se fait ? C'est parce que le Christ nous a tellement aimés que nous devons l'aimer. Donc, nous devons l'aimer comme il nous a aimés. Et s'il y a quelque chose que peut-être vous devez retenir ce matin... Donc, merci.